Hello, bienvenue à tous, je suis Laetitia Pal et vous écoutez Vendu, le podcast pour booster ses ventes. Je vous retrouve pour un nouveau Sales Talks. Je rappelle le principe, je discute avec une personnalité de la vente de mon réseau pour t'aider à dépasser tes objectifs et rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. Il y a quelques semaines, j'ai discuté avec Maxime Paris qui a formé des centaines et des centaines et des centaines de sales en France. Aujourd'hui, sa mission, c'est d'apprendre à un maximum de gens à prospecter et à vendre. Du coup, quand on discute ensemble, on est très bavard. On est resté ensemble après 45 minutes et on a parlé des techniques de vente pour closer un deal en one shot, en une seule fois. C'est ta dose de culture sales. Bonne écoute. Hello Maxime, ça va ?
Comment ça va Laetitia ? Je suis trop content d'être avec toi pour ton podcast depuis le temps que j'attends ce moment.
C'est vrai, j'avoue qu'en fait, en tout cas, c'était certain que si je me lançais à avoir des discussions avec des gens, t'étais dans le top de ma liste. Je suis trop contente également de t'avoir, Maxime, parce qu'on va pouvoir parler entre sales et sales. En fait, pour moi, je pense que t'es celui en sales où je considère qui peut vraiment bien me challenger, en tout cas. Donc voilà, en France.
Bah ouais, je te retourne ça. Je pense que t'es la seule qui peut me challenger aussi, tu vois, sur cette thématique-là.
Ok, cool. Alors, du coup, je te présente rapidement, même si je pense que tu es pas mal connu dans l'univers des sales. Tu es l'ancien cofondateur, enfin même fondateur tout simplement de MyBizDev. Ouais. Fondateur de MyBizDev. Tu as formé des tonnes et tonnes et tonnes de sales pour plein de boîtes en France, tout type de boîtes en France. La mienne d'abord, la première. D'ailleurs, j'ai fait appel à MyBizDev. Ensuite, aujourd'hui, tu as décidé de changer de vie et d'être en mode solopreneur comme moi. Et donc, du coup, d'avoir une boîte qui s'appelle Maxime Paris, où tu apprends aux gens à prospecter et à vendre. Et pareil, tu vas continuer ton taf à évangéliser sur du sales, à apprendre les différentes méthodes, toutes les boîtes. Et ce qui est cool avec toi, c'est que tu apprends vraiment, tu es assez capable d'apprendre autant à des scale-up, des start-up parisiennes qu'à des industries et des entreprises plus classiques, des PME, etc. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de t'avoir en tout cas sur ce podcast-là. On va pas parler juste.
J'ai fait toutes les pages du bottin. Je les ai toutes faites. J'ai prospecté toutes les cibles de clientèle, tout. Grand compte, petit compte, maçon, plombier, directeur 440, tout.
C'est ça que je kiffe parce que effectivement, généralement, quand on parle de la vente, c'est une pote à moi qui s'appelle Audrey Petro qui a aussi un podcast, Les Achievers, mais qui dit un truc qui est vrai, c'est que quand on parle de vente, généralement, on a l'impression qu'on parle tous de vente en mode voilà comment faut vendre, mais en fait, en fonction de l'industrie, en fonction de ton produit, c'est pas forcément les mêmes techniques. Et toi, tu as quand même un panel assez important. Tu as commencé quand même dans l'école de la vente qui est Xeros, c'est ça ?
Les copieurs, et franchement Laetitia, je crois qu'il n'y a rien de moins sexy au monde qu'un copieur. Tu sais, quand tu as le nouveau logiciel à la mode, c'est facile, c'est sexy, mais qui veut un copieur ? Quel dirigeant se lève le matin en se disant « il faut absolument que je change mon copieur là, ça n'arrive pas », tu vois ?
Sauf si son assistante le saoule tous les matins parce que le copieur ne marche pas, mais tu as raison. En fait, en tout cas, quand tu sais vendre des copieurs, tu sais tout vendre, globalement. En tout cas, trop cool. Moi, en fait, je te voulais vraiment, pour discuter sur ce podcast aussi, par rapport à quelque chose, je discute avec pas mal de gens dans la vente, je vois beaucoup de conseils de vente un peu partout, de plus en plus d'ailleurs, donc c'est assez cool. En France, on commence à avoir de plus en plus de littérature sales, on n'est plus obligé d'aller regarder cause US, voir ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, les choses que je vois, c'est des choses parfois un peu hors sol, tu vois. Genre moi, effectivement, qui est dans la vente, toi aussi. Bon, il y a pas mal de conseils qui disent voilà ce qu'il faut faire pour vendre, voilà les étapes qu'il faut faire, etc. Sauf que la réalité, c'est que quand on vend, on est dans des boîtes, on a des objectifs et en plus, on est un des rares métiers à être incentivé avec des variables. Alors, moi, je décide et j'encourage beaucoup de gens à aller travailler dans des boîtes où il y a des variables. Même s'il y a des boîtes qui disent pas de variables, ok, fine, mais en tout cas, je pense que à la fin, ce qu'on a envie, c'est d'être récompensé. Et donc, du coup, on a des objectifs à atteindre et on n'a pas forcément beaucoup, beaucoup de temps. Donc, parfois, certaines méthodes qui sont préconisées par certains sales coach ou en tout cas par certains experts de la vente, bah, en fait, tu te dis que si tu les suis, tu ne vas pas causer grand-chose, en tout cas sur l'année 2023. J'avais envie de parler avec toi pour que tu me dises aujourd'hui comment on fait en 2023 pour closer vite un deal et rentrer dans ses objectifs. Voilà.
Bah oui. Et tu vois, par rapport à ça, même je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faut vendre pour toucher des primes. Donc ça, c'est le mindset du commercial. Mais en fait, c'est vraiment ça qui permet de remplir le frigo. On remplit pas son frigo avec des BSPCE ou des actions ou une tape dans le dos du manager en fin de mois, tu vois. Donc il faut vendre pour, bah, pour gagner de l'argent, tu vois. À titre perso, mais surtout aussi, bah, pour la boîte. Tu le sens dans les boîtes où ça vend, cette sorte d'émulation où tout va bien, les objectifs sont faits, tout le monde est content. Finalement, bah, c'est grâce au commercial que, qu'on arrive à aller chercher ces émotions et situations-là, tu vois.
Donc ouais. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, en plus, je pense, alors j'en sais rien, c'est peut-être que tu as une meilleure vision. Bon, en tout cas, moi, j'ai fait ce métier, j'ai commencé à faire du sales pour gagner de l'argent. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais moi, en tout cas, j'ai l'impression que tous les sales que j'ai recrutés dans ma vie, principalement, ils faisaient ce métier pour gagner de l'argent. Voilà.
Pas
pour.
Bah ouais.
Voilà, ok.
Puis tu sais, on se lève le matin, c'est pour gagner de l'argent. De toute façon, c'est pour ça qu'on travaille. Hein. Sinon, on serait tous à la plage avec des cocktails, etc. Si on avait le choix, tu vois. Mais si on va au charbon, c'est pour gagner des sous, quoi.
C'est gagner plus d'argent que les autres. En fait, pour moi, c'était plutôt ça, tu vois, de pouvoir.
Et les bons sales peuvent gagner plus d'argent que les autres. Et en plus, on n'est pas jugé sur notre diplôme ou notre passé. On est vraiment jugé. C'est le tableau de bord, le juge de paix, au final, tu vois. Même s'il y a des copinages dans les boîtes, surtout dans les grosses structures ou de la politique, le tableau de bord, il parle. Et en fait, les top sales sont intouchables.
Ouais. C'est ça, exactement, exactement. Bah du coup, tu t'as répondu en tout cas à une partie de l'objectif en fait d'un sales et des bons sales. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a tout ce discours-là en fait, comme je disais, de faut prendre le temps. Tu vois, moi aujourd'hui, un truc que j'entendais pas il y a ouais non putain, je suis vieille. Il y a 10 ans, c'est de dire c'est pas la peine quand tu contactes quelqu'un de lui demander directement un rendez-vous. Enfin, moi, j'ai demandé rendez-vous. Enfin, j'ai pas le temps, en fait. J'ai un quarter. J'ai un chiffre à faire pour un quarter. Donc, du coup, c'est pour ça que je te pose la question. Comment on peut faire aujourd'hui, en 2023, en prenant le temps, en personnalisant, en ayant toutes ces best practices, mais en allant vite?
Ouais, il faut aller vite. Et on va rentrer dans le détail. De toute façon, c'est le but de ce podcast. Mais déjà, on peut se dire pourquoi il faut aller vite. Parce qu'en fait, l'attention des gens, ça part tellement vite que, en fait, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et je pense que c'est un enjeu de raccourcir ces délais de vente parce que le contrat, il est signé, le cash, il rentre. Et tous les gens qui laissent traîner les propositions commerciales dans les tuyaux, bah, est-ce qu'il faut que je le relance? Est-ce que c'est le bon moment? Machin truc. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans la vie d'une proposition commerciale avec des changements de poste, des changements de priorité. Les budgets, il n'y a qu'un seul budget, mais tu as 100 000 boîtes qui vont chercher des budgets, donc les gens vont devoir faire des choix qu'il ne faut vraiment pas procrastiner, ou quand on a une opportunité d'affaires, bah, il faut closer, il faut que ça rentre, quoi, tu vois. C'est bon pour soi, c'est bon pour la boîte, et un prospect aussi qui a fait son choix de partenaire, c'est bon pour lui parce qu'il fait avancer ses projets. Imagine un acheteur, il a 50 propals et il n'y a personne qui le close. À un moment, il va réfléchir pendant 3 heures. Ce qu'il veut, c'est un partenaire de confiance qu'il prenne par la main, parce que lui aussi, il a des objectifs de quarter qui ne sont pas du chiffre, mais il faut qu'ils mettent des projets en place et que ça avance, tu vois. Donc, c'est même rendre service finalement à l'interlocuteur que de rentrer les propals vite. Et c'est pour ça que là, je te fais cet aparté parce qu'on est en France, mais je pense qu'il y a un mindset qu'il faut se donner tout de suite, c'est être fier de vendre. Il faut être content d'aller vendre. Il faut être content d'aller demander des cartes bleues. Il faut être content d'aller demander des numéros d'IBAN, tu vois. FR76, 8000, 3003, tu vois. C'est comme ça, les IBAN, tu vois. Et il faut que ça rentre et il faut que les gens soient fiers de ça. Il faut arrêter avec cette image de vendre, c'est mal, vendre, je sais pas trop, mais avoir peur de demander l'argent, tu vois. Soyez fiers de demander de l'argent. Moi, il y a des gens qui sont mes amis. C'était mes clients avant. Tu vois, j'ai pris un rendez-vous au téléphone avec eux, j'en ai fait des clients et après c'est devenu des amis. Il y a des anciens clients, je pars en vacances avec eux, tu vois. Donc même plus que de la vente, des aventures humaines. Une fois, j'ai même ma maman, à un moment dans ma vie, je prenais plus le soin de l'appeler, tu sais, le dimanche. Toujours des excuses, j'ai trop de taf, trop pressé, patati patata, mais elle m'a dit, Maxime, tous les vendredis, tu appelles tes clients et moi, ta mère, tu m'appelles pas. Mais il faut quoi? Il faut que je signe un contrat pour que j'ai un peu d'attention de ta part avec toi. Tu vois,
je ne peux pas faire ça. Je suis d'accord avec ton mindset. Par contre, je ne recommande pas de lâcher sa famille
pour faire
ça. Ouais, ok.
Et finalement, maintenant, je l'appelle tout le temps. Mais tu vois, c'est pour dire que ses clients, on en prend soin. Il faut être fier d'en avoir parce que finalement, on va avoir des relations privilégiées, quoi. Et c'est la vente qui permet ça, tu vois.
Je suis d'accord avec ça. En fait, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue dernièrement avec. Arnaud Bellinga, qui est un CEO et qui d'une boîte qu'il a montée, qui est une solution, en fait, le CRM, moi j'appelle ça le CRM du futur, parce que son CRM est assez cool, mais qui disait un truc, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à une période où, en fait, tous les produits se ressemblent et tous les services ressemblent. Donc, encore plus, tu vois, le fait de, oui, il faut closer vite pour répondre aux objectifs, mais il faut aussi closer vite parce qu'en fait, bah, il se trouve que moi, tu vois, ça se trouve, je peux appeler J'appelle Thalès demain. Toi, tu vas l'appeler dans 2 jours. Et en fait, notre différenciation, elle ne va pas être énorme, tu vois. On n'est pas, on n'a plus trop de boîtes où on a des pains qui sont. Enfin, on répond à des pains extrêmement différents. Donc, ça veut dire en fait qu'il faut aller plus vite que l'autre. Voilà.
Il faut aller plus vite que l'autre. Et c'est pour ça que j'adore, tu sais, cet exemple en fait du copieur. Parce que dans l'industrie des startups, on ne se rend pas compte, mais dans l'industrie de l'équipement de l'entreprise, le nombre de commerciaux qui vendent des copieurs, des alarmes, des lignes de téléphonie fixes, tout le monde est déjà équipé en fait. Tu vois, j'appelais 150 mecs par jour quand j'étais chez Xerox. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit « vous tombez bien, j'ai pas de copieur ».
Ouais.
Tu vois, et les copieurs, c'est tous les mêmes. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment… Tu vois, nous, on était obligés chez Xerox de faire des ventes one shot. Ça veut dire qu'on était obligé de signer au premier rendez-vous. On avait interdiction de rappeler les prospects en dehors du premier rendez-vous. Parce que le mindset, c'était de toute façon, le copieur Xerox, il est comme les autres. Et en plus, c'est le plus cher du marché. Et vu que la nuit porte conseil, on sait très bien que le lendemain matin à 9h, il va forcément en acheter un autre en fait. Donc la culture, c'était obligation du one shot. Et on devait arriver à un cycle de vente où à la fin, c'est oui ou c'est non, c'est signature sur le contrat ou c'est pas de signature, mais c'est merci, au revoir. Et on pouvait avoir des situations loquaces à rester 2, 3, 4 heures en rendez-vous pour aller chercher nos contrats. Donc ça, si tu veux, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'était une culture qui était extrême. Mais dans cette culture extrême, les techniques de vente qui sont apprises peuvent très bien se mettre dans d'autres produits et de services sans être aussi extrême en quelque sorte, quoi, tu vois.
Et du coup, justement, toi, alors, parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas ce podcast, il n'y a pas que des gens en startup qui l'écoutent, mais il y a plein de vendeurs dans plein de domaines différents. Il y a même des recruteurs, parce que finalement, ça fonctionne de la même manière, hein, faut closer des guys. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, dans les techniques dont tu parles, je trouve que c'est extrême, effectivement, tu vois, de dire tu vas faire une vente tout de suite aujourd'hui. Je pense que c'est hyper. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est quand même hyper rare. C'est quoi, justement, les techniques que tu préconiserais de reprendre, en fait ?
Ouais, on va pouvoir parler du plan de vente, tu vois. Mais déjà, dans la matrice, il y avait un truc. Et ça, c'était le truc indispensable de chez Xerox. C'était qu'en fait, il fallait trouver 3 pains sur le prospect. 3 problèmes à résoudre. Un copieur, ça a 70 fonctionnalités. Mais moi, je savais pas m'en servir je pouvais pas faire une démonstration des features, tu vois. C'est tellement dur de s'en servir. Mais en fait, le jeu pendant mon argumentaire, et c'est pour ça que ça durait 3-4 heures, c'est que je devais poser des questions à mon prospect jusqu'à trouver 3 pains. En fait, on disait, si je trouve 3 pains et qu'on arrive à faire dire la bouche du prospect, qu'il arrive à dire dans sa bouche que c'est un problème, si j'en trouve 3, ça va signer tout de suite à n'importe quel prix. Si j'en trouve 2, on va galérer à la fin et il va négocier. Et si je trouve 1 pain, ça signera jamais. Et en fait, le jeu, c'était tant que j'ai pas mes 3 pains et que je les ai pas accentués et qu'il les a pas dit de sa bouche que c'était un problème, on partait pas en mode démonstration, tu vois. C'était indispensable d'avoir les 3. Et je pouvais passer 2h30 à poser des questions, à me balader dans les bureaux, à poser des questions à tout le monde. Comment vous faites pourquoi vous faites ça? Comment ça se passe ci? Comment ça se passe ça? Pourquoi? Pour avoir ces 3 pains, quoi.
Donc pour toi, en fait, alors juste parce qu'il y a des gens qui sont parfois débutants, donc pain, c'est
problème.
Découvrir le problème voilà, du prospect. Genre, sur ça, je trouve ça chambé, parce qu'effectivement, je pense que le truc, c'est que de dire que tu vas avoir un seul problème, alors généralement déjà, il y a plusieurs problèmes, c'est que les sales, soit ils vont dire, ouais, donc j'imagine que votre problème, c'est ça, donc ils vont faire parler la personne, mais en fait, c'est pas la personne qui l'a dit, donc ce que tu dis très important, c'est de dire, en fait, bah voilà, en fait, les gens... C'est la personne qui doit exprimer le problème et c'est pas toi qui dois l'exprimer et avoir arraché un oui, ça c'est la première chose. Mais sur ce que tu dis, c'est de ne pas en avoir qu'un seul, c'est d'en avoir 3, parce que comme ça c'est suffisamment fort en fait pour qu'il puisse avoir un intérêt. Maintenant là où je te challenge, c'est que la plupart des rendez-vous qu'on a aujourd'hui, alors moi la première, c'est des rendez-vous de 30 minutes où tu as une phase de découverte qui dure 15 minutes. Ouais, allez, 20 minutes, tu vois, genre si tu pousses et voilà. Surtout si tu as des interlocuteurs différents. Donc, c'est quoi que tu préconiserais ? Ce serait de faire ça en 2 temps, de plus du tout, de faire que de la phase de découverte pendant les 30 minutes. Enfin, comment tu mets en place ça ? Parce que pour avoir 3 pains, il faut en poser des questions, quoi.
Bah ouais, c'est sûr. Donc en fait, déjà, tout dépend du produit du service. Il faut avoir l'agilité de choisir son bon cycle de vente. Tu vois, moi, je sais que ma boîte de recrutement, MyBizDev, en 30 minutes, je faisais 20 minutes de découverte des besoins. je trouvais mes trois pains. My Biz Dev, je pouvais le pitcher en 5 minutes, c'était très simple, et tout de suite faire une ouverture de poste. Mais effectivement, si j'ai une solution complexe avec des prospects grands comptes, je peux avoir un cycle de vente qui va être en plusieurs phases où mon premier rendez-vous ne peut être qu'un seul rendez-vous de découverte. Tu vois, et où à la fin, on va convenir d'une autre date avec d'autres interlocuteurs. Mais même quand je vais me déplacer avec les autres interlocuteurs, même à eux, je vais leur refaire la découverte. Parce que chaque bonhomme doit avoir des pains et pouvoir les déclencher. Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, si j'ai une solution complexe, je vais la découper en deux. Tu vois? Et ça amène à un autre truc. Ce qui est hyper important quand on veut faire un one shot, en fait, c'est de poser le cadre du one shot. Un one shot, ça se prépare. Souvent, les gens, débutants ou autres, je les vois arriver en rendez-vous, des fois ils s'assoient, le prospect prend la main, bon bah extra, je suis content de vous recevoir, présentez-moi votre truc. Et les gens partent dans une sorte de démonstration, puis après ils font un ping-pong, ah mais moi je fais comme ci, comme ça, tu sais, là, une sorte de ping-pong qui sert à rien. En fait, ils n'ont pas de plan. Ils s'assoient, ils se la jouent de Wall Street et ils pensent qu'en pitchant une feature, la personne va se dire, oh mais lui va me changer ma vie, mais quelle magie, oh super. Alors je vais changer mes 20 ans de travail comme ça parce qu'en une seconde, il m'a pitché la phrase magique, tu vois. Mais ça se passe jamais comme ça, quoi. Et en fait, l'idée de poser le cadre, c'est en fait, le rendez-vous, déjà, c'est le sien. Et il faut prendre la main dès le début du rendez-vous, tu vois. Donc en fait, prendre la main, ça veut dire quoi? Ça se fait en 3 minutes, c'est récapituler. Merci, monsieur Durand, de me recevoir. On avait parlé de ci, ça, patati, patata. Ok, c'est récapituler le passé. Et surtout, c'est proposer le plan. C'est quoi proposer le plan? Monsieur Martin, je vous ai tout apporté. Je vais vous faire une démonstration. Si ça vous plaît, moi, dès ce premier rendez-vous-là, on présente son cycle de vente, je peux être à même à vous faire une proposition de prix. Sachez que si on rentre dans les budgets, j'ai déjà on peut signer les contrats en live. J'ai ma valise avec mes contrats là. Donc à la fin, on pourra le faire. Donc en fait, à la fin de ce rendez-vous-là, moi, si je vous fais un prix tout de suite, bah, je compte sur vous pour me donner une réponse. Vous me direz, bah, si oui, vous voulez le faire, et là, on fera un contrat, ou si vous voulez pas le faire, mais dites-moi le clairement. Je serai apte à l'entendre et on passera tous les deux à autre chose.
Tu fais ça dès le début? Tu
dis ça c'était dès le début, poser le cadre, tu vois. Et raconter comment ça va se passer et comment ça va finir, tu vois. Mais si j'ai un cycle de vente en deux temps, je vais dire à la fin, on finira par prendre d'autres noms pour faire un second rendez-vous tel jour, telle heure. Mais dès le début, je vais annoncer la fin de l'histoire. Parce que comme ça, le prospect, il va comprendre que la découverte des besoins, elle va se faire. Ouais. Que la démonstration va se faire et qu'on va respecter le temps qui nous est imparti. Souvent, les gens qui ne proposent pas le plan, ils me disent « Oh, mais Max, découvert des besoins, j'y arrive pas. » Donc après, il y a plusieurs choses. Mais c'est surtout que la personne, elle a pris une demi-heure sur l'agenda. Elle se dit « Non, mais attendez, moi, à la fin, il me faut mon prix et ma démo. J'ai pas le temps de répondre à vos questions. » Mais s'il comprend tout de suite que dans les 30 minutes, bah, à la fin, il aura ce qu'il attend, les gens, ils se laissent driver en fait par ce plan-là.
Complètement, ouais, je suis d'accord. C'est garder le lead et pas le laisser le lead du coup. Bah, en plus, parce que généralement, genre, je sais que ce qui peut être compliqué pour des gens qui débutent ou des gens qui ne sont pas forcément extrêmement bons en vente, etc., c'est de dire ouais, mais en fait, j'ai envie de laisser parler l'autre, etc., et pas m'imposer. Mais en fait, une personne, elle a pris une demi-heure de son temps, elle veut qu'il soit vraiment bien utiliser ces 30 minutes. Enfin, voilà. Donc, du coup, tu peux le mettre dans un couloir et en fait, qu'il a juste à se laisser guider, ça l'arrangera clairement.
Bah ouais, il sait qu'il est entre de bonnes mains. Et puis, de toute façon, juste après cette phase de plan, on va faire les trois quarts de découverte des besoins. On va l'écouter, on va lui poser des questions, on va créer ce climat de confiance. Donc, finalement, on aura largement le temps de le laisser valoriser. Tu vois, et ça va lui rendre service. Imagine, tu vas chez le médecin et c'est le patient qui prend le lead. Et dans quel monde on va? Ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire?
D'accord. Mais par contre, en fait, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est alors, en fait, en gros, dès le plan de vente, donc effectivement, tu t'expliques comment le rendez-vous va se dérouler. Mais du coup, à la fin, la petite touche que tu rajoutes pour qu'on puisse faire une vente one shot, c'est de dire, ouais, en fait, à la fin, vous pourrez déjà me dire oui ou non, en fait, sur ma solution. Ouais. C'est pas forcément comme tout le monde ne le fait pas. Du coup, toi, par exemple, en termes de formulation, donc tu disais que tu avais des trucs un peu qui sont déjà prêts, etc. Comment ensuite tu fais ta phase de découverte, tu fais ton pitch de 5 minutes, comment tu fais ce raccord entre ce plan de vente et ce moment-là?
Bah oui, clairement. Et c'est pour ça qu'à la fin du plan de vente, la petite phrase, c'est bah avant que je rentre dans le vif, parlez-moi déjà de vous. J'ai besoin de comprendre comment vous fonctionnez bah, pour vous faire une démonstration qui vous concerne vous et qui est vraiment personnalisée. Quoi. C'est pour ça que je me suis déplacé. On ne va pas regarder une plaquette tous les deux. Là. On va prendre votre cas d'usage à vous. Tu vois. Et là, ça fait l'introduction pour la découverte des besoins. Tu vois. Ouais. Tu veux qu'on se la refasse, la phrase?
Non, ouais, vas-y, go.
Ouais, je te la refais. Je l'ai fait 10 000 fois, je peux la refaire en boucle. Monsieur Durand, je vous ai tout apporté, je vais tout vous montrer. Dès la fin de ce rendez-vous, moi, je suis capable de vous faire un prix. Comme ça, vous aurez toutes les infos s'il y a des réflexions de budget à faire. Tu vois. Mais okay. Avant qu'on rentre dans le vif, parlez-moi déjà de vous parce que j'ai besoin de comprendre pour vous faire un cas d'usage, une étude qui vous concerne vous. Donc, tu vois, dans cette version-là, je n'ai pas parlé d'où on va signer un contrat à la fin. J'ai dit à la fin qu'il a un budget. Si peut-être, il faudra plusieurs rendez-vous pour signer. Mais tu as vu les phrases, je l'ai dit avant, c'est exactement les mêmes que j'ai prononcées. Tu vois, et je peux les pitcher 400 fois celle-là, tu vois. Ça part yes. En punchline, ce bloc-là.
Yes, carrément. Il faut juste que tu changes les noms de Monsieur Durand et Monsieur Martin. Il faut que tu trouves des noms.
Ouais, il faut que je me trouve un truc plus cool, quoi. Bah, c'est chiant, Monsieur Martin. Là.
Parce que Monsieur Martin, c'est vraiment c'est plus possible.
Ouais. J'avais une dame qui m'avait dit, mais pourquoi pas Madame Martin ? Je lui ai dit, j'en sais rien, moi, pourquoi pas Madame Martin ?
Non, du coup très cool c'est cette partie là maintenant du coup on a annoncé le plan de vente, on fait la phase de découverte, bon t'as toutes les informations qu'il te faut. La difficulté qu'il y a dans la phase de découverte, alors t'as déjà répondu à la question sur le fait que ce soit toi qui time le temps et que ça prenne pas trop de temps et que tu attends sur la suite, donc ça t'as déjà répondu là dessus maintenant quels sont les éléments qui vont te permettre de comprendre la durée de ton cycle de vente, s'il va pouvoir être court ou long. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, tu vas... Je ne sais pas, moi, par exemple, ça m'arrive de me dire, OK, là, en fait, je sens que ça va être long. Donc, en fait, je vais réduire, en fait, mon plan. Tu vois, en fait, mon plan, il va être réduit en fonction de ce que je vais savoir. Je vais me dire, non, mais là, en fait, ça ne sert à rien. Ça va être un deal qui va être hyper long. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup d'énergie, en fait, aujourd'hui. Et à l'inverse, il y a des deals où tu vas dire, OK, en fait, là, j'ai les informations qu'il me faut. En fait, là, je vais mettre toute ma patate là maintenant parce que ce deal est signé dans un truc. Toi, comment tu fais ?
Tu vois, moi, j'ai des gens qui attendent toujours leur proposition commerciale. Là. Tu sais, ils se disent, je suis un mauvais sales, mais ils attendent leur propale, je ne l'ai jamais envoyé parce que je n'avais pas assez d'indicateurs pour y consacrer du temps. Je me suis consacré sur d'autres deals. Donc, s'il y en a qui lisent ce podcast, qui attendent la propale de Maxime Paris, c'est parce que je n'ai pas eu assez de points avec vous sur ce que je vais vous expliquer maintenant. Et donc, la propale, je vous l'enverrai jamais, messieurs. Je vous envoie directement chez les confrères, ça va plus vite. En fait, si tu veux, l'intérêt aussi de la vente, c'est qu'en découverte des besoins, on va laisser la main au prospect. Et on est vraiment sur un échange où on est au même niveau, on n'est pas dans une phase de vente. Mais l'avantage qu'on a, nous, en tant que biz dev, c'est qu'on connaît déjà la fin de l'histoire. On a déjà vu le film. C'est comme le Titanic, on l'avait déjà vu, on sait que le bateau il coule et qu'on connaît déjà la fin de l'histoire. Et en fait, à la fin de l'histoire, c'est soit oui, et là on peut commencer à avoir une relation commerciale qui va durer des années, des années et des années comme une histoire d'amour, ou c'est soit non pour toujours les mêmes trucs. Tu vois, ouais. C'est trop cher, bon ok, celui-là on le connaît, mais ça cache d'autres choses, ça cache j'ai pas le budget, ça cache c'est pas moi qui m'en occupe, ça cache c'est pas moi qui décide, ça cache ça m'intéresse pas, ça cache c'est pas le bon moment, ou ça cache il y a d'autres gens qui font le mieux.
C'est aussi que ça passe pas avec toi, hein. On n'en parle pas souvent. On n'en parle pas, mais la vente, c'est aussi à 90%.
Moi, tout le monde m'aime, Laetitia. Tout le monde m'aime. Mais pour le coup, c'est, tu vois, même ta remarque, elle est hyper intéressante. Moi, je me souviens, c'était chez Xerox. On avait une chef de projet qui allait installer les clients, tu vois. Et une fois, en rentrant du bureau, elle me dit, mais Maxime, mais moi, j'adore tes clients devant tout le monde. C'est vraiment tout le temps les plus sympas, etc. Ils sont trop cool. Et moi, j'étais flatté. Je me sentais bien, tu vois, devant tout le monde en plus. Et en rentrant en bagnole chez moi, je me dis, c'est vrai qu'elle a raison. Mais comment ça se fait que j'arrive pas à signer ceux qui sont pas sympas? J'arrive à signer que les sympas comme moi parce que je fais des bonnes blagues. J'étais un jeune commercial. Et en fait, je me rendais compte que j'arrivais pas à m'adapter à ceux qui sont plus stricts. Tu sais, les rouges, les rigoureux, où ils aiment pas les blagues, tu vois. Et j'avais eu un long travail sur moi à, tu vois, réussir à se faire apprécier avec tout le monde. Aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours plein de gens qui me détestent. Ça fait partie du jeu. Mais il y a vraiment un aspect de caméléon. Tu vois, moi, ça fait maintenant tellement de temps que je vais dans les startups. Tout le monde est ouvert, on se marre et on s'y retrouve très bien. Ils adorent mes blagues. Une fois, je suis allé à un rendez-vous avec un client. On allait voir un général de l'armée en bas de Porte de Versailles, là, tu vois, à Paris. Ouais, déjà, le rendez-vous, c'était 9, je vous attends à 9h00. C'était pas 9h, c'était 9h00, quoi. Et on a eu du bol d'arriver un quart d'heure à l'avance parce qu'on n'avait pas anticipé, mais c'est comme à l'aéroport, tu sais, il faut vider les poches, les sacs, tout le bordel avant de rentrer, là. On est arrivé à 8h59, on était comme ça dans les couloirs à trouver la bonne porte, là, tu vois. Et on s'était adapté à ce monsieur-là. Et en fait, même mon ton, j'étais pas venu pour faire des blagues. J'étais venu avec un plan hyper carré. Il fallait rentrer droit au but. Et après, c'était détendu. On a eu un super échange. Il était pas tendu, mais il fallait avoir une autre rigueur dans la déballe, quoi, tu vois.
Complètement d'accord, hein. Ouais, mais c'est important parce qu'en fait, en gros, parfois, on a plein de raisons sur le CV, c'est trop cher. Mais il y a des fois, c'est juste la personne a envie de travailler avec toi. Et tu as raison, en fait, ça se règle en travaillant sur sa posture et en sachant, en fait, s'adapter à chaque personnalité. Voilà, évidemment. Je pense que c'est quand même important de le dire aussi.
Mais et du coup, si on reprend ce jeu à points, en fait, la vente, c'est comme un touché-coulé, c'est un jeu à points. Si j'ai les 100, c'est un peu comme les 3 peines, je vais signer tout de suite. 80, ça traîne. 50, j'ai raté la moitié du truc, j'ai pas assez d'infos, quoi, tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est de venir anticiper ces 6 objections de budget, de prix, celles que je t'ai énoncées avant. Et en fait, dans mon blog de découverte des besoins, il va falloir que je coche les cases avec mes questions pour le budget, mes questions pour identifier les compétiteurs, mes questions pour trouver le champion, mes questions pour le decision process, mes questions pour l'intérêt, execution workflow, et après nous on disait les questions pour les timings, tu vois.
Tu peux faire ça en français parce que moi à chaque fois on me talque sur LinkedIn parce que j'aime trop mettre des mots anglais.
Donc, ouais.
J'ai pas envie qu'on
j'ai mis beaucoup de mots anglais, c'est parce que tu sais, on a beaucoup de.
Moi ça me dérange pas, mais je sais qu'en fait apparemment genre. À chaque fois sur mes posts, j'ai toujours quelqu'un qui fait « Et en français, ça fait quoi ?»
Genre, tu vois, ouais, c'est vrai. Ils sont chiants, ces boomers, là. Et je les connais, vu que je suis un boomer aussi, moi, tu sais. Des fois, je leur dis « Vous pouvez parler en français ?» Je leur dis « Bah, en fait, non, moi, je fais du franglish. C'est pas que je parle anglais, c'est un nouveau langage que j'ai créé. Donc, si vous voulez communiquer avec moi, il faut vous adapter, monsieur. C'est en franglish qu'on parle maintenant. »
C'est surtout que dans la vente, en fait, là, 90% des words sont en anglais. Mais bon, vas-y, refais-le.
Ouais, je te le refais. Vas-y. Mais tu sais, effectivement, avec mon militaire de l'armée, là, il fallait pas que je fasse du franglish parce que lui, il n'aurait pas compris non plus, puis il m'en aurait mis une, tu vois. Donc, j'ai fait attention à mon bon français aussi, quoi.
Et tu sais quoi, il s'est arrivé il n'y a pas très longtemps, pareil. Alors, c'était pas avec quelqu'un de l'armée, mais c'est du coup, je travaillais sur le marché du coup canadien et avec du coup des gens du Québec. Et les gens du Québec font hyper gaffe aux français. Genre, en fait, pour eux, c'est.
Ils rigolent pas avec ça.
C'est un comportement de parler français. Et donc, du coup, moi, j'étais là en train de pitcher, genre en mode. Avec plein de franglish, et en fait, il y a un moment donné, le gars m'a stoppé, il m'a dit attendez. Vu que vous avez envie de pénétrer le marché canadien, et notamment le Québec, je vous préviens direct.
Parce que le français, ouais.
Arrêtez l'anglais, quoi, tu vois.
C'est un Canadien qui t'a appris le français.
Exactement, et tous les rendez-vous après, j'étais en mode genre, ok, je faisais hyper gaffe, tu vois. Genre, tu vois, je disais pas lead, je disais prospect. Genre, tu vois, vraiment, tu vois, genre, j'utilisais vraiment que des mots français. Bon, en tout cas, parenthèse fermée. Du coup, revois juste les points, le comptage de points comme.
Bah oui. Et tu sais, il y a des méthodes de vente avec des acronymes. Et pourquoi je fais du franglais, c'est que j'avais créé une qui était la méthode BizDev. Mais pour que ça rentre dans BizDev, j'ai dû mettre des mots anglais dessus, tu vois. Mais on peut se le refaire en français. Donc, B, c'est le budget. Il faut déjà, en fait, pouvoir sonder si l'interlocuteur il a du budget, si la boîte est en croissance, si ça se développe, voir un peu comprendre s'il est en situation de guerre ou de développement, quoi, tu vois, pour s'adapter à ça. Et même cette question de budget, je pense qu'elle est hyper importante en fonction de son service, parce qu'il ne faut pas oublier que dans une vente, c'est une histoire à deux, c'est comme une histoire d'amour, tu vois. Moi, je sais que quand je démarrais ma startup, j'avais pas besoin de clients qui aient été tendus niveau budget. J'avais que ceux qui ont besoin d'argent parce que j'ai besoin que j'ai une relation qui déroule, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même le vendeur, surtout en tant que solopreneur, peut s'attacher après à ses clients qui vont tirer vers le haut, quoi. Donc, B, ça, c'est les questions de budget. Deux, c'est les concurrents. Donc, tu vois, en franglish, c'était identify competitor, c'est trouver les concurrents. Et là, souvent, encore plus pour les vendeurs qui ont des leads entrants, ils oublient de mettre les pieds dedans. Pour eux, en fait, c'est acquis. Alors qu'encore plus quand c'est des leads entrants, les mecs n'ont pas rempli un seul formulaire sur Internet. Ils en ont rempli 2-3. Et il faut sonder. Tiens, monsieur Martin, si on ne travaille pas ensemble, vous avez quelle solution dans votre panier? Comment vous faites si jamais je ne vous fais pas de proposition, moi? Même pour voir si c'est. Ça peut être de la concurrence indirecte. C'est peut-être Martine dans son bureau qui va le faire à la main, ce truc-là. Peut-être pas un concurrent direct, mais il faut comprendre ça.
Je t'arrête là-dessus parce que ce point-là est hyper important. Parce que les gens pensent concurrence. Ils pensent à chaque fois concurrence à un autre produit qui ressemble au tien. Alors qu'en fait, on ne peut pas imaginer. Enfin, on ne peut pas imaginer l'imagination que peuvent avoir nos prospects de se dire « Attends, comment je vais faire pour ne pas dépenser de fric ?» En fait, ça, c'est extrêmement important. Donc, un truc que toi, tu vas me permettre de faire hyper easy, est-ce que, Monsieur Martin, il ne peut pas le faire tout seul en travaillant avec Monsieur Durand, etc., etc. Donc, ça, c'est hyper important de ne pas juste poser la question des compétiteurs, je veux dire, enfin, des concurrents qui nous ressemblent, mais aussi également quelle autre solution, en fait, vous pourriez mettre en place si vous achetez pas une solution, quoi.
Bah ouais, tu vois, c'est clairement ça, tu vois. Donc ça, c'est les compétiteurs. Après, c'est de trouver le champion. Donc en fait, le champion dans la boîte, c'est celui qui a les problèmes. C'est celui qui, un matin, va aller en réunion avec la propale et qui va dire à son comité ou à son chef, moi, ce trimestre, c'est cette solution-là que je vais mettre en place. C'est celui en tant que commercial qu'on va rappeler toutes les fins de semaine, le premier mois, pour voir comment ça se passe, le reporting. C'est celui-là qui a les problèmes et qui va défendre la propale. C'est celui qui s'en occupe. C'est pas celui qui signe, mais c'est celui qui va l'utiliser. Bon, dans la petite boîte, ça peut être les deux, tu vois, mais ça peut être un tour différent. Donc, il faut trouver ce champion-là. Et ça, c'est hyper important. Des fois, moi, je vois des propales. Tu vois, j'avais un client, il démarchait les RH et SNCF. Et en prospection, il dit, les gars, surtout pas SNCF, j'ai une propale qui est chaude, là, depuis 3 mois. Nanani, nanana. Bon, bah, moi, on fait des grosses listes, un peu bourrin. Il y a un rendez-vous qui tombe, SNCF. Donc, il avait dit, je vous avais dit, pas SNCF. Bah, je lui dis, bon, bah, il y a un rendez-vous, là, on y va ou pas? Bon, bah oui, on y va, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte que sa propale qui était dans les tuyaux, le mec avait été très poli, il l'avait reçu, il avait pris son devis et son prix. Mais en fait, c'était pas le champion. Des DRH, il y en a 350. Il y a tellement des fonctions différentes. Il a mis sa propale dans les mauvaises mains. Donc, sa propale, elle pouvait rester 10 ans dans les tuyaux, elle aurait jamais avancé. Le mec était resté poli, cordial, il l'avait pris à l'ascenseur, accompagné à l'ascenseur. Oui, oui, on se rappelle semaine prochaine. Et puis après, il l'aurait ghosté pendant 6 mois sans problème, tu vois.
Mais surtout qu'en plus, on n'imagine pas, mais en fait, en vrai, et moi, je l'ai déjà vécu, mais mes débuts dans la vente, mais en fait, il y a des gens dans les boîtes, en fait, voilà, ils ont, c'est pas qu'ils ont que ça à faire, mais en tout cas, ils sont contents d'aller découvrir, de benchmarker, de parler avec des gens, de faire des trucs. Mais en fait, ils n'ont pas un poids dans la décision. Et ce n'est même pas une question. Là, tu disais, là, l'exemple, c'est la personne est polie. Mais tu as des gens, en fait, qui vont juste prendre du rendez-vous parce qu'ils sont comme ça, ils veulent découvrir, etc. Mais en fait, ils n'ont pas forcément un besoin de fou, quoi. Donc, si toi, tu ne fais pas le travail, voir exactement pourquoi il a voulu prendre rendez-vous avec toi, tu peux avoir des mauvaises surprises.
Des mauvaises surprises, surtout le vendredi. Hein. Tu sais, chez les grands groupes, les vendredis, les rendez-vous fournisseurs, ça met bien. Tu sais, ah bah à 15h, non, j'ai rendez-vous fournisseur, et puis tu les fais, puis après, hop, tu vois, ça part. Tu sais, faut pas croire que dans la tour à la défense, tout le monde est pressé. Hein. Tout le monde dit, les top managers, ils sont trop pressés. Moi, j'y suis allé dans les tours à la défense. Hein. Il y a personne qui court, hein, les gars. C'est tranquille, hein, le vendredi à 14. Quoi. J'exagère, je rigole, mais voilà, sur 50 000 collaborateurs, tout le monde n'est pas dans le jus, les gars. Hein. Ils ont tous que ça. Vous
voyez pas ça. 90%, ma cible, c'est les grands groupes, donc je ne rebondis pas là-dessus.
Je ne rebondis pas là-dessus, ouais. Mais tu sais, comme tout le monde, je veux dire, on est tous des humains normaux. Mais tu sais, même dans ce truc, de quand tu poses le cadre au début, à la fin, on va parler prix, je vais vous dire oui ou non. Tu as déjà des infos tout de suite. Ah oui, non, mais la personne peut déjà te dire, ah oui, mais moi, là, je prends les infos. Après, il y a aussi, tu vois, déjà avec le cadre qu'on a posé au début, il y a déjà des infos qui peuvent ressortir tout de suite, tu vois. Ça part en découverte des besoins. La personne va déjà expliquer ça, quoi, tu vois, donc le champion. Et finalement, après, bah, c'est process de décision. Donc, decision process, c'est mon dé, où là, on va vraiment devoir, en tant que bizdev, aller remonter les rôles de tout le monde, tu vois, dans la boîte. Moi, je me souviens, on avait fait un rendez-vous très grand compte avec, c'était Black Chip, une startup rachetée par, maintenant, c'est Partout Food, Arnaud. Okay. C'était un coup de fil. On était allé voir une directrice innovation de chez Lagardère. Donc, okay. Rendez-vous hyper grand compte. Et quand elle nous parle de son process de décision, on avait des infos, mais c'était pas très clair. Et à un moment, bah, tu vois, on lui disait, mais en fait, vous, comment vous allez présenter la propale? Ah bah moi, tous les mois, je fais un monthly avec mes directeurs de pays. Là, on présente les nouveaux projets. Bah, comment tu veux, sans jeter la championne, comment nous, on peut vous aider, intervenir là-dedans, on tourne. Mais à un moment, on n'arrivait pas, nous, à comprendre nos prochaines étapes. Tu vois. Et bon, bref, on lâche l'affaire, ça devenait un peu chiant de parler que de ça. Ça faisait un peu, tu sais, redondant. On part d'un autre sujet, mais on y revient plus tard. Et je lui dis, mais vous, là, pour choisir les projets que vous allez présenter, comment ça se passe? Ah, bah, je me pose aussi toutes les fins de semaine avec les collègues. OK, c'est qui vos collègues? Et dans sa business unit de Lagardère, finalement, ils étaient 6 et j'ai remonté les rôles de chacun avec leur nom et leur prénom, tu vois. Lui, là, Monsieur Durand, il fait quoi? Ah, bah, lui, c'est un top manager, il est dans les hautes sphères, lui, il rentre pas là-dedans. OK, pas de problème. Elle fait quoi? Ah, bah, justement, c'est avec elle que je fais les réunions, machin. Et c'est pas qu'elle voulait nous le cacher, ça, c'est pas un secret. Mais tu sais, elle y pensait pas, en fait, à ces étapes simples de préamont. Elle pensait à sa grosse réu avec les machins, mais elle avait oublié de nous sortir que d'abord, elle décide avec Martine tous les vendredis comment ça se passe.
Ouais, c'est ton quotidien, tu y penses pas, etc. Par contre, là, justement, j'aime bien te poser cette question-là parce que c'est quelque chose que moi-même, je peux vivre. T'as deux types de prospects. Tu as les types de prospects qui vont répondre vraiment de manière hyper friendly à ce genre de questions. Justement, ils sont là pour répondre à tes questions et ils vont donner plein d'infos. Et puis, tu as ceux qui n'ont qui pas envie de te répondre. Hein. Alors, tu peux poser plein de fois la question de manière différente. Je note vraiment cette partie-là où que tu dis qui est importante, c'est qu'il y a des moments où tu n'as pas l'info, tu n'es pas convaincu, mais tu ne vas pas être lourd, donc tu repasses sur autre chose et tu gardes en tête que tu reviens. Donc ça, oui, mais tu peux parfois avoir quelqu'un, il n'a pas envie de te donner les noms, tu vois. Il te trouve suspect, tu vois. Bon, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu lâches l'affaire?
T'as dit le bon mot, tu vois. Et après, on pourra en parler, je pense, même pendant 2 heures de ça. Mais il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que des fois, c'est pas pour toi, mais pour des débutants en vente, ils me disent, mais Max, les prospects, ils répondent pas aux questions que je leur pose. Ouais. Souvent, quand c'est comme ça tout le temps, je leur dis, mais c'est parce qu'en fait, tu te rends pas compte, mais tu poses que des questions manipulatoires, des questions alternatives ou fermées. C'est pour ça qu'ils te répondent pas. Parce que tu veux les manipuler vers tes fonctionnalités. Personne n'a envie de se sentir manipulé, tu vois. Pose des questions ouvertes et tu verras qu'ils te répondent volontiers. Donc, ouais. Des fois, juste avec les questions ouvertes, finalement, c'est facile à dire les questions ouvertes, mais quand tu es en pratique, c'est beaucoup plus dur. Tu vois, il y a plein de gens, ils vont poser 3 questions en même temps que des questions alternatives. Pendant que les gens parlent, au lieu de réfléchir avec eux, ils réfléchissent aux questions qu'ils vont poser après. Tu vois, tu as vraiment une gymnastique, donc tu as ça. Ou sinon, le beau mot que tu as dit avant, bah, s'ils ne veulent pas répondre, c'est que tu n'as pas gagné leur confiance. Tu as utilisé le mot de suspect. Tu vois, donc si je suis en mode suspect, il y a un moment où je me dis, il faut que je gagne la confiance et je peux stopper ma découverte des besoins. Pour passer en mode storytelling, parler de ma boîte et de mes cas d'usage clients, me présenter moi, Maxime Paris, en tant que bonhomme, mon passé, mes aspirations futures, même lui poser des questions après sur l'humain, parce que je sais qu'il faut que je le détende. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, je dis à mes bizdev, je leur dis, de toute façon, s'il y a des gens qui veulent pas répondre à vos questions de découverte des besoins, ils ne vous donneront jamais leur rib. Si quelqu'un veut pas te dire avec qui il travaille, est-ce que tu penses que tu as une seule chance qu'il te donne son IBAN? Jamais. Donc, en fait, tu dois rien lâcher sur ça, quoi, tu vois? Je leur disais.
Non, ce que tu dis. Tu vas tuer. Non, en vrai, je pense que tu as raison sur ça. Le truc que j'aime bien, c'est, moi, en fait, en tout cas, ce que je vois souvent, c'est que les gens ont du mal. Alors, je sais pas si c'est très francophone ou pas, mais à poser aussi les questions de manière franche. C'est-à-dire, en fait, en vrai, tu veux avoir une information. J'aime bien ce que tu dis, en fait, de pas être dans une démarche manipulatoire. C'est-à-dire, tu veux savoir si la personne, en vrai, c'est logique, tu veux savoir en fait le process de décision. Bon, en fait, toi-même, tes sales, tu as un temps, tu as un planning, tu as une boîte à fonder. Eux-mêmes, ils ont des commerciaux avec des gens qui ont des plannings, une boîte à tourner, qui payent peut-être leur salaire, etc. En fait, ils sont à même de comprendre c'est quoi ton job et qu'est-ce que tu es en train de faire là. Donc, pose-leur la question directement sur, OK, en fait, même, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé. Peut-être que vous dites que c'est un peu bizarre que je vous pose la question sur le nom exact des personnes, etc. Vous inquiétez pas, je ne vais pas les contacter. Mais vraiment, l'histoire, pour moi, c'est vraiment de comprendre, votre process de décision est plutôt long chez vous, plutôt court, est-ce qu'on peut avancer vite, comment, enfin tu vois, ça m'arrive en fait, tu vois, à un moment donné de mettre les pieds dans le plat directement en me disant, bon voilà, on va arrêter de tourner en rond, je vais te dire exactement pourquoi je te pose cette question là tu peux te, soit j'ai une personne, c'est généralement très rare, généralement ils sont en mode genre, ok, je comprends, enfin voilà, tu vois,
bah oui.
Moi dans la vie quoi, là c'est important.
Et oui, et c'est là où tu vois la phrase magique que je disais au début, où tu proposes le plan, tu dis qu'on va arriver sur un prix et qu'à la fin tu attends une réponse, et qu'avant de savoir ça, il faut que tu poses des questions pour comprendre tout leur process. Quand la personne accepte ça et que tu n'as pas honte de vendre, on est vraiment dans une relation d'affaires et de business, en fait le mec il comprend, tu vois. À la fin on va arriver sur un prix, il capte qu'il faut avoir le process de décision. Mais pourquoi? Parce que si c'est le champion, c'est pour l'aider dans ce process là Tu vois, c'est avoir les deadlines. Et quand le plan est clair dès le départ et que les gens l'acceptent, normalement, enfin, il y a plein de cas de figure, on les a vus avant, mais normalement, ça va dérouler où on pourra challenger. Monsieur Durand, on met les pieds dans le plat. Monsieur Durand, je vois que vous voulez pas me répondre là. On n'est pas là pour faire des gueules de bois. Je me suis déplacé, je voulais expliquer le plan. Le but, c'est qu'à la fin, on fasse affaire ou pas ensemble. Soit on fait affaire, c'est super. Soit on fait pas affaire, il n'y a pas de problème. On restera bons copains. Et je pourrais même vous faire des recommandations avec des gens du secteur. Mais si je vous pose cette question-là, c'est parce que si après on est à même à avancer, on va en avoir besoin, oui ou non? Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Ou si tu vois ce que je veux dire. Donc après, là, j'ai le ton de voix qui choque un peu, mais on peut dire avec un ton de voix gentil, avec un sourire, tu vois. Mais il ne faut pas hésiter à recadrer les prospects aussi, à la rentrer dedans quand ils ne jouent pas le jeu, tu vois.
Mais je pense qu'en plus, c'est ce qui fait la différence. J'aime bien dire que, en tout cas, dans mon podcast, que j'essaie de donner des conseils qui font en sorte que d'être dans le top 1% des meilleurs commerciaux, mais c'est ça, en fait, qui fait la différence, j'ai l'impression. En tout cas, pour moi, dans il y a des moments où tu peux voir deux personnes qui vendent le même produit, tu n'as pas les mêmes résultats. Le produit, il est le même. La seule raison, c'est justement. Tu vois, en fait, parfois, on pense que les sales, c'est des gens qui ont du bagou. Non, c'est des gens qui ont des techniques et des méthodes. C'est ce que tu expliques là et c'est extrêmement clair. Mais je dirais que le bagou, si on devrait parler du bagou, c'est là. C'est en fait de pouvoir savoir à temps recadrer la personne. Pas le recadrer en mode genre, c'est un enfant et je te dis, voilà, etc. Mais recadrer en disant, écoutez, en fait, là, on est dans une relation d'adulte. Et du coup, moi, j'ai besoin d'avoir ces informations-là pour savoir si je peux vous aider ou pas. Voilà.
Bah oui.
Et si je ne peux pas vous aider et que vous trouvez trop, vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de répondre, ou en fait, finalement, tu vois, tu peux même savoir, en fait, dans la réponse à ces questions, si on t'en donne beaucoup ou pas beaucoup, l'intérêt aussi pour ton produit. Parce que parfois, tu as des sales qui disent, ouais, la valeur, tu vois. Ce côté, oui, ils n'ont pas compris la valeur, ils n'ont pas compris la valeur. Et il y a des fois, ton produit, il apporte de la valeur. C'est juste que la personne en face. En fait, ça lui sert pas, en fait. C'est bof, tu vois, c'est dans sa priorité, c'est la numéro 2. Donc là, au moment où tu es en train de lui parler, elle va pas te répondre parce que c'est la priorité numéro 2. Dans 3 mois, ça peut devenir la priorité numéro 1. Et donc, du coup, là, elle va te répondre grave à ces questions, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que parfois, j'imagine que tu l'as vécu 1000 fois, mais parfois, tu peux avoir rendez-vous avec le même prospect, c'est le jour et la nuit en termes de détente. Et c'est vraiment, parfois, c'est lié en fait à la priorité ou
à la vie, quoi, même des fois. Aux situations de vie qu'il a vécues le matin, quoi. Tu sais, le matin, il s'énervait en bagnole. Tu vois, j'ai déjà eu des clients, des biens, ils disent « Ah, j'ai eu un rendez-vous, ça s'est super bien passé. » Ils sont tout contents de le rappeler. Ils le rappellent, ouais. Tu vois, le mec, il est tout froid, en fait. Ça change tout, quoi, tu vois. Et là, je vois le commercial, je regarde comme ça. Qu'est-ce que je vois? Les jambes qui flagellent, les jambes qui tremblent sous la table. J'adore cette, c'est ma nouvelle phrase. Ça. J'adore cette phrase. Les jambes qui tremblent, tu vois, pas mettre les pieds dans le plat, quoi, tu sais. Et le commercial, quand il voit le mec un peu stressé, qu'est-ce qu'il fait? Il devient encore plus gentil. Oui, tiens. Ah, il va se faire démonter, quoi, dans les questions, tu vois. Donc oui, avoir la conversion d'adulte et poser les plats dedans. Mais je rigole parce que j'ai eu les jambes qui tremblaient, moi aussi. On a tous eu les jambes qui tremblaient, tu vois. Et peut-être que demain, je les aurai encore face à des prospects, j'espère, tu vois, vivre ces émotions encore une fois, de flageller, là.
Mais c'est pour ça que je rigole. C'est que, en fait, je rigole pas parce que je me dis qu'il y a des gens qui sont comme ça. Je rigole parce que je me souviens de moi d'avoir été comme ça il y a très longtemps. On a tous été comme ça, donc voilà. Ah ouais. Ok. Donc là, en fait, on a vu à peu près tous les éléments. Donc là, on y arrive sur la phase découverte.
Il va manquer, tu vois, ce qu'il faut, tu vois, le prospect qui dit, on prend les escaliers, non, monsieur, il faut qu'on prenne l'ascenseur, j'ai les gens qui ne tiennent plus là, tellement que j'ai peur et que je suis intimidé. Bref, j'arrête avec mes blagues débiles. Donc, le point d'après, c'est là, tu vois, jusque là, on a parlé budget, compétiteur, champion, machin, on n'a pas parlé encore des pains. Tu vois, execution workflow, le tableau des pains, en fait, il arrive là. Et là, ça va être par rapport à chacune des fonctionnalités produits. En face de chacune, je dois avoir des questions ouvertes de découverte, de scan. Comment vous faites pour? Tu vois? Et pour pouvoir sonder, même si ça vaut le coup que je les présente après. Tu vois, souvent, les gens dans le SaaS ont une structure de déballe, c'est tout le temps la même. Mais je leur dis, les gars, si votre pitch, là, en rendez-vous, c'est toujours le même, mais fou chat GPT avec une logo d'IA, de toute façon, vous récitez des machins par cœur, vous servez à quoi? Tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut vraiment aussi, tu vois, dans les copieurs, c'était simple de le comprendre parce que j'allais pas présenter 70 fonctionnalités. Donc, il fallait vraiment que j'en trouve 3 et j'en présentais que 3. Tu vois, déjà qu'un copieur, c'est chiant. Alors, imagine, je passe 2 heures à faire des démonstrations de comment on sort les feuilles, laisse tomber, tu vois. Mais dans ça, vu que tout est un peu sexy et rigolo, souvent, les gens ont envie de montrer trop de trucs, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut pas tout montrer parce que des fois, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut parler de tout. Mais tu peux présenter un truc en une phrase et tu peux présenter un truc en une phrase avec des bénéfices, des preuves, des chiffres, etc. Tu vois, donc c'est accentuer ça. Et je vais accentuer uniquement celle où j'ai trouvé les pains. Mais une fois que j'ai trouvé le pain, et c'est là la magie de la vente, c'est qu'en fait, c'est le prospect qui doit le dire de sa bouche. C'est lui qui doit dire qu'il a un problème. Je vais te donner un cas. J'ai un client, il partait faire c'était un truc d'RH, tu vois, il partait faire un logiciel de matching RH, bilan de compétences, machin. Et à un moment, il demande en question de pain, bah, comment vous faites vos référentiels métiers? Tu vois, le DRH, il lui dit, bah, moi, je l'ai fait avec SurveyMonkey, un truc de sondage. Ouais. Alors là, le biz dev, il se dit, mais lui, je vais lui changer la vie. SurveyMonkey, mais il passe des heures à faire ce machin. Moi, ça se fait en 3 clics, ça aspire tout seul. Alors, dès qu'il entend SurveyMonkey, alors là, boum, ça sort la plaquette. Alors voilà, maintenant, vous allez faire ci, ça, 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 ça. C'était feu d'artifice à l'américaine. Le prospect, il le regarde, il lui dit, moi, ça fait 20 ans que je suis DRH, monsieur. d'un groupe leader international dans les assurances. Vous croyez que vous allez m'apprendre mon métier? Si je vous dis que j'ai surveillé mon qui, c'est que j'ai surveillé mon qui, tu vois. Et après, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Il dit, ouais, ce prospect, c'est vraiment un con, les boomers, ils veulent pas changer. Oh là là, mais eux, ils avanceront jamais. Mais je lui dis, mec, c'est Groupama. Tu crois que Groupama, ils vont pas avancer? Toi, ta boîte, personne la connaît. Bien sûr qu'ils vont avancer.
J'adore. Non. Ok.
Oui. La question qu'il fallait qu'il pose, c'était pourquoi surveille Monkey? C'est ça qu'il fallait dire. Pourquoi vous avez surveillé Monkey? Bah parce qu'en fait, on me l'a mis dans les mains il y a X années, patati patata. Mais c'est-à-dire, et comment vous faites pour ça? Quelles conséquences en fait ça a pour vous de faire ci comme ça? Combien de temps ça vous prend? Et qu'en fait, lui arrive à dire de sa bouche, bah en fait, je fais ça comme ça, ça me prend X temps. Finalement, c'est vrai qu'il y a elle qui rentre dans le process, ça prend du temps, tu vois. Et si juste après, je vous montre une solution pour pouvoir le faire en deux clics et gagner du temps, ça vous intéresse ça? Bah ouais, montrez-moi. Non, attendez, je vais vous montrer. On continue. Comment vous faites pour? Et on va chercher d'autres pains, tu vois, parce qu'il m'en faut trois.
Yes.
Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, je vois les commerciaux un peu feu follet, là. Dès qu'ils trouvent un truc en une fois, ils peuvent pas s'empêcher de montrer leur truc, là. Ah ben, regardez, je vous montre tout ça. Tandis, tais-toi.
C'est fou parce que je pense que le nombre de contenus qui sont sur ce sujet-là, ça ne change absolument rien. Mais vraiment, enfin, t'imagines, je crois qu'il n'y a pas… Il n'y a pas un contenu sales que tu vois, mais en France, aux US, qui parle de ça. Pourtant, tout le monde fait ça. Et même, même des gens qui ont de l'expérience, en fait, je pense que c'est un réflexe humain de vouloir parler de soi et c'est compliqué, en fait, de…
Ah ouais. Moi, j'avais un copain chez Xerox, tu sais, il partait en rendez-vous avec le manager, là, un jeune sales comme moi. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais il me l'a raconté. Il m'a dit, bon, bah, là, j'ai commencé à présenter. C'est vraiment des cultures de ouf. Il dit, j'ai présenté mon truc. Tu sais ce qu'il a fait, l'autre? Il m'a dit, et là, j'ai gueulé, ah, l'autre, il lui a mis un coup de pied sous la table pour qu'il ferme sa gueule. J'étais là, mais les mecs, vous êtes vraiment des beaufs, quoi. L'autre, il lui a mis un coup de savate dans les tibias pour pas qu'il
présente. J'aurais jamais pu bosser dans les copains. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on dit que c'est les écoles de vente. Parce qu'en fait, vraiment, c'est la culture sales la plus.
Ah, tu te fais battre, hein. Ça cogne. Hein. Et tu sais, c'était une culture que moi, j'y ai passé 2 ans dedans. D'ailleurs, plusieurs mois, j'avais fini top sales. J'avais aussi fini dernier. C'était l'époque des yo-yo, tu sais, où on faisait du frigo, tout ça. Et j'étais un jeune commercial, j'avais beaucoup à apprendre. Et j'avais adoré ces techniques de vente et ça m'a passionné pour le produit. Mais en fait, je ne me suis jamais senti dans ces cultures. Dans les cultures hyper agressives de la vente, enfin, j'avais qu'une envie, c'était d'en sortir, tu vois. Et en plus, quand t'es immatriculé, copieur sur la tronche, tu vois, c'est parce qu'ils sont durs, mais ils sont durs même avec leurs collaborateurs. C'était des fixes au SMIC avec des variables machin, c'était la carotte et le bâton. Donc c'était l'école militaire de la vente. Et tous les lundis, on devait réciter nos techniques de vente. Tu vois, si la phrase du plan de vente, je peux te la réciter par cœur, mais c'est parce qu'il y a 15 ans, on me la faisait réciter 25 fois d'affilée pendant 20 minutes. C'était fais encore, répète. C'est comme ça qu'on a appris.
Mais,
quoi.
Ouais, mais ça, je pense que c'est important. Tu vois, moi, genre, je sais que mes sales dans mon ancienne boîte, ma startup, etc., enfin, je l'ai formé comme ça. En fait, franchement, il y a un moment où, en fait, sur ça, je pense qu'il n'y a pas de raccourci. Parce qu'il y a un moment où, si tu sais ce que tu vas dire, tu seras meilleur pour comment le dire. Tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure du gars de l'armée, où tu parles de d'autres prospects qui sont peut-être un peu plus dans ton mindset, à aimer les blagues, etc. Tu peux dire exactement la même chose, tu sais ce que tu vas dire, mais avec un ton différent et avec une posture différente, tu vois. Alors que si tu ne maîtrises pas ça, personne n'a envie de parler avec quelqu'un qui bégaye, qui a l'impression de ne pas maîtriser. Enfin, tu vois, tu fais de la vente. On a besoin de savoir, en fait, que tu dois sécuriser. Rien que le fait de vouloir qu'on t'achète, c'est que tu sécurises rien qu'avec ta présence en disant… Ok, en fait, cette personne a l'air de savoir en fait ce qu'elle fait et de savoir surtout où elle va. Donc, tu vois, dans ton plan de vente, en fait, de connaître par cœur, tu vois, cette culture que tu as appris, c'est-à-dire que la manière dont tu vas le dire, il n'y aura pas une égratignure, tu vois, il n'y aura pas et du coup, ça sera hyper clair. Tout de suite, ça met en confiance la personne, je pense. Hein,
bah oui. Tu sais, souvent, je compare ça, moi, tous ces blocs de techniques de vente, de storytelling, de démo, de blocs de questions, de closing, c'est un peu comme des cartes au poker. Et quand tu connais toutes tes cartes par cœur, enfin, peut-être pas de poker, mais quand tu connais tes cartes par cœur, peu importe comment ça va se passer le rendez-vous, tu vas pouvoir les jouer. Tu vois, s'il répond pas aux questions, ok, je vais jouer ma carte storytelling, mais parce que je sais le faire en 45 secondes et de manière très claire pour qu'il regagne la confiance. Maintenant, je sais qu'il faut que je reparte en arrière, je rejoue la carte découverte des besoins, tu vois. Et même si le rendez-vous, il se passe pas comme prévu, si je connais mes blocs par cœur, bah, je peux les jouer, quoi. Je suis maître de mon jeu, tu vois.
Complètement.
Et c'est là où j'ai pas les jambes qui flagellent, et ces jambes qui flagellent.
Du coup, Du coup, là vous avez... J'adore. Du coup, là, on a fini globalement la découverte des besoins. En tout cas, on a les informations.
Il reste timing et budget. C'est le dernier, tu vois. Quand est-ce qu'on peut faire ces projets-là, tu vois. Limite dire, bah, monsieur Durand, on est en février, là. Si on fait en septembre, c'est bon pour vous. Oh, bah non, si on fait, c'est tout de suite. Bon, d'accord, ok, tu vois. Et une fois que j'ai ces questions-là, c'est la suite de ta question, je pense, non. C'est on parle du comptant. Tu vois, en fait, c'est comme si j'avais des feux verts et des feux rouges. J'ai 6 blocs de questions. Si c'est tous blocs feux verts, je sais que je fais ma démo et je vais pouvoir tenter mon one shot. Si j'ai le budget, j'ai pas decision process, j'ai pas champion, j'ai une pain et pas 3 et j'ai quand même des dates, bah, en fait, je vais faire une démo qui peut durer limite 30 secondes, mais à la fin, je propose même pas un prix, je vais proposer un autre rendez-vous avec les personnes qui me manquaient. Tu vois, suivant ces feux-là, je sais comment je vais avancer ou comment je vais continuer ou pas. Et je vois trop de sales, vu qu'ils ont pas leur feu, en fait, ils pitchent leur démo récité par cœur à tout le monde. Tu vois, mais je leur dis, les gars, mais vous êtes vraiment, vous êtes pas des sales, vous êtes des animaux dans un zoo, quoi, tu vois. Réveillez-vous, quoi. On va boucher des cacahuètes bientôt, quoi.
Alors, il y a un truc qui est très compliqué, en fait, quand t'es au début, quoi. Alors, moi, ce que j'appelle débutant, peut-être que, enfin, vu que tu as formé quand même pas mal de sales, peut-être que tu pourras me corriger là-dessus, mais moi, enfin, je dirais entre 0 et 4 ans, tu vois. Mmh. Genre, voilà, c'est ce que j'appelle un peu débutant. Je pense qu'en fait, il faut quand même, enfin, j'aimais bien, tu disais, j'ai travaillé 2 ans et j'ai eu beaucoup de trucs à apprendre chez Xeros. Bah, c'est pareil, moi, mes 2 premières années de sales, enfin, tu vois, je me considérais comme junior, tu vois, genre après 2 ans, tu vois. Je dis ça parce que, en fait, tu vois, ce que je remarque, c'est que toi, aujourd'hui, tu as suffisamment d'expérience pour qu'en fait, tu arrives à visualiser dans ta tête ces feux verts et ces feux rouges. Par contre, quand tu commences et que tu es déjà en train d'essayer de comprendre les questions, la manière dont tu vas poser les questions, justement maîtrise questions ouvertes, questions fermées, etc., etc., à la fin, de te dire, bon, ok, je fais quoi? C'est quoi le... Enfin, tu vois, c'est ça le plus difficile, en fait, dans la
vie. Et parce que tu sais, en fait, les juniors, ils n'acceptent pas de perdre. Ils veulent signer tout le monde. Donc, il veut arriver au bout avec tout le monde. Moi, j'ai perdu tellement de deals, j'ai pris tellement de bâches qu'en fait, je m'en fous de perdre. Tu vois? Et je sais même que la vente, en fait, c'est des chiffres et que plus j'en perds, plus je vais en gagner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, ça me dérange pas d'arrêter ma conversation là. Si c'est pas lui, c'est pas grave. Si c'est pas les bons bonhommes, je reprendrai mon process. Ça sera pour le mois prochain. Mais en fait, je vais aller au one shot que si j'ai mes feux verts et mes peignes. Si je les ai pas, je vais stopper là parce que avoir une propale dans le pipe qui avance pas et qui ghost en faisant croire que, ah bah, tiens, lui, peut-être qu'il va rentrer et avoir un veau frais semblant de j'ai du pipe, mais en fait, j'ai rien. Ça, c'est terrible pour un service commercial, tu vois. Dans un pipe, c'est oui ou c'est non. Il faut qu'on ait ces feux-là. Et en fait, si tu n'acceptes pas de perdre ou de te faire bâcher ou qu'on te dise non, en fait, ça avance pas. Moi, je m'en fous qu'on me dise non. Si j'ai 4 non, je vais avoir un oui. Si je perds 4 rendez-vous aujourd'hui, génial, parce que c'est-à-dire que le prochain, je vais le signer, tu vois.
Yes. En fait, c'est hyper important ce que tu dis. Et le truc de cette question du pipe qui est en fait d'avoir un pipe, moi, j'appelle ça avoir un pipe déformant, je sais pas, t'as l'impression que t'as quelque chose et finalement en plus c'est terrible hein, parce que souvent tu peux avoir des sales, ils ont l'impression qu'ils vont signer, ils signent rien, les mois passent et s'il y a un truc en fait qui fait la différence entre nos métiers et les autres, c'est que quand t'es en dépression pour remonter, c'est très 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 compliqué. Non mais vraiment, moi c'est très rare en fait, tu vois, genre le sales qui est comme ça et qui remonte. Je ne te parle pas de sales qui ont des moments de mou, ça nous arrive à tous, il y a des moments où tu signes, il y a des moments où tu ne signes pas. Je ne te parle pas de ça. Hein. Je te parle d'un sales, pendant 3 mois, il fait un quarter de nul. Mmh. Après, pour remonter la pente, c'est hyper rare. Parce qu'en fait, tu es dans une espèce de... Généralement, il est obligé de changer de boîte pour pouvoir reprendre un espèce de regain, tu vois. Mais,
au quarter, tu es fumé. Au quarter, tu es fumé, tu vois. D'ailleurs, c'est un bon indicateur, tu vois. Si tu as des mecs qui ne tournent pas au quarter, mais là, c'est managérial, tu vois. Et là, Et tu vois, c'est là où on voit, il y a vraiment, tu vois, moi, j'ai eu la chance, par contre. Autant, j'ai pas eu de diplôme, mais j'ai eu la chance d'être dans des boîtes avec des formateurs, des managers coach. Et moi qui travaille beaucoup avec des startups, tu vois, j'en ai qui disent, mais les jeunes dans cette école, ils savent vendre ou pas? Ils sont bons, Max, les gens dans cette école? Ben, je leur dis non, c'est des jeunes d'école. Bien sûr que non, ils savent pas vendre, mec. Ils ont passé 6 mois à l'école, ils n'ont jamais fait de deal. Bien sûr que non, ils ne savent pas vendre. Par contre, ils ont envie, ils savent écouter, ils ont envie de faire ce métier. Et en fait, c'est ta responsabilité à toi de le faire monter. Tu vois, donc en tant que fondateur, tu dois vendre. Moi, j'ai eu du bol, j'ai eu des formations de fou et j'avais une manageuse qui venait avec moi en rendez-vous toutes les semaines, tu vois, on y allait ensemble.
C'est la
tu vois, à me faire des doubles écoutes et des feedbacks. Et quand je suis allé chez Mars, les mecs, ils se sont pas dit, c'est un Xerox, il sait vendre. J'ai re-eu une formation et j'ai re-eu un top manager qui m'a accompagné pendant 2 ans. Et quand je suis allé chez Companeo, pareil, rebelote, j'ai encore été formé et encore eu des managers de proximité, des team leaders pour me faire monter, tu vois. Je suis pas monté tout seul. Et des fois, t'as des boîtes, ils ont oublié leurs responsabilités, tu vois.
Ouais, et puis, soit ils ont oublié, soit on l'a déjà parlé plusieurs fois en off, mais c'est aussi, je pense, un manque de culture sales, notamment en France, qui fait que tu as beaucoup de fondateurs qui peuvent monter des boîtes sans savoir vendre, ou qui signent quelques deals, leur premier deal, etc., et qu'ils ont l'impression qu'ils sont sales, mais ils ne maîtrisent aucune technique. Et du coup,
c'est les deals recommandations, c'est les deals des copains, tu vois, on serre des mains. C'est comme si moi, demain, il faut que je fasse une plateforme et je me prends un stagiaire de chez 42. Bon, vas-y, code la plateforme, là, c'est pas compliqué. Hein. Tu vois, prends tes petits doigts et tu les fais courir sur le clavier comme ça. La plateforme, elle va pas se construire, quoi, tu vois. C'est pareil pour les sales. Bah, tiens, on t'a fait une espèce de liste, là, bah, passe des coups de fil, ça va se vendre tout seul. Bah, si ça se vendait tout seul, on serait tous une fois de plus, on serait avec des cocktails au bord de la plage si ça se vendait tout seul.
Yes. Ouais. En fait, je suis d'accord avec toi. Mais alors, justement, par rapport à la méthode que tu as donnée, en fait, tu as donné une méthode vraiment extrêmement nickel, justement, pour pouvoir closer les deals en one shot. Toi, aujourd'hui, pour maîtriser ça, parce que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir un Maxime Paris à côté de lui, mais il faut combien de temps globalement parce que j'aimais bien ce que tu disais, en fait, d'accepter de perdre. Aujourd'hui, il faut combien de temps, en fait, pour maîtriser ces techniques-là et quelles recommandations tu ferais, en tout cas, pour pouvoir s'assurer, en fait, que tu es sur la bonne voie, quoi, en fait.
En fait, tu as plusieurs montées en compétences, tu vois, sur un truc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en business développant qu'on vient de business développeur. Et quand on te montre une fois un rendez-vous qui se passe comme ça avec des questions, ça fait déjà un déclic. Moi, quand j'étais un jeune sales, j'ai vu une fois que ça signe en one shot, j'ai eu un déclic. Et comme des perroquets, j'ai réussi à reproduire, tu vois. Donc, en fait, très rapidement, pour être du niveau 0 au niveau 1, ça peut se faire tout de suite. Tu vois, moi, je suis déjà allé en rendez-vous avec un client. J'ai fait le rendez-vous avec lui. Je fais la découverte des besoins. C'est un coaching. C'est 1h30. Il passe déjà du niveau 0 au niveau 15. En 1h30, c'est bâché. Tu vois ce que je veux dire? Après, la deuxième phase, c'est quand tu sais le faire, tu répètes. Et après, souvent, tu t'éloignes du cadre sans t'en rendre compte. Donc, c'est là qu'il faut être suffisamment malin et avoir les outils limites pour s'auto-évaluer et se donner du recul. Tu vois, moi, je travaille avec des grilles et savoir se le faire à soi-même. Tu vois, moi, Maxime Paris, chez MyBizDev, qui suis un pro vendeur, ça m'est arrivé comme tout le monde. Des fois, je fais une semaine, je fais que des rendez-vous, il n'y a plus rien qui rentre. Et en fait, je me rendais pas compte, mais j'étais trop venu dans mes basiques. Je faisais plus de découverte des besoins, tu sais, plein de rendez-vous, tu t'enchaînes avec 15 démos, je prends le téléphone dans ma bille, et en fait, j'étais tombé dans mes vieux travers. Là, je regarde ma grille. Ah, tiens, les feux, Max. T'as pas vu, tu les as plus, les feux, là. C'est pour ça que tu signes pas, en fait. T'étais bon, t'es devenu nul. Et à moi aussi, ça m'arrive, tu vois.
J'ai fait un épisode là-dessus, et justement, ce que je disais, c'était que, parce que souvent, on est obligé, on sort des grandes phases comme ça en disant les meilleurs commerciaux. Mais en fait, en vrai, c'est que tu n'es jamais le meilleur commercial tout le temps. Et donc, il y a des moments, en fait, c'est hyper important ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a des moments en fait, où tu n'es pas bon parce que justement, tu as pris des habitudes. Justement, parce que tu as été bon à un moment donné, tu te dis bon, c'est bon, tu vois, je maîtrise.
Je sais faire.
Du coup, je sais faire. Et surtout, il ne faut pas non plus oublier que les prospects évoluent, que les techniques évoluent. Tu vois, genre, ce qui est bien, c'est que ce que j'aime bien, c'est ce que tu as donné comme technique. Enfin, dans les années 80, c'était pareil. Il fallait faire même la même chose. Aujourd'hui, pareil, c'est-à-dire qu'il peut même avoir l'IA demain, ce sera la même technique qu'il faudra mettre en place pour closer des deals. Peut-être que tu auras plus d'informations que tu pourras avoir et donc ta phase découverte pourra durer plus douce, enfin, moins de temps, mais en réalité, c'est la même méthode, en fait. Mais du coup, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est de dire, en fait, de toujours se checker si tu fais toujours ça. Est-ce que je te demande juste, il y a plusieurs écoles, moi, je suis une école papier. Ouais. Quand je fais des rendez-vous,
j'ai acheté mon casque.
Du coup, ok, d'accord. Du coup, moi je coche, tu vois, les trucs que je dois savoir. Tu vois, je prépare mes rendez-vous avant et je me dis, ok, ça, tu veux savoir ça. Donc, ça, je sais que ça rendait fou des gens dans mon ancien associé, Paul. Ça le rendait fou parce qu'il disait, mais en fait, tu perds trop de temps parce que du coup, après, tu vas devoir renoter les choses dans ton CRM. Bon, je renotais le plus important, du coup, globalement. Mais toi, tu sais quoi ta technique? C'est le casque?
Moi, j'ai eu plusieurs vies, tu vois. Si je fais un rendez-vous physique, ça me dérange pas d'avoir le carnet et le crayon. Je l'ai beaucoup fait. Après, tu sais, vu que moi, j'ai commencé le BizDev, on n'avait pas de PC. J'en ai rempli des cahiers et des cahiers. D'ailleurs, tiens, ils sont tous chez ma mère. C'est le seul truc que j'ai pas jeté dans ma vie, j'ai tout jeté, tu vois. J'ai des cartons de cahiers avec mes argumentaires de jeune sales d'il y a 20 ans. Ouais, j'ai les reliques. J'ai 20 ans de cahiers de technique de vente gribouillés avec bonjour, on l'appelle Maxime de chez Xerox, de tous mes trucs là, tu vois. J'ai gardé tous ces cahiers là. Et en fait, moi, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. J'ai pas cette capacité féminine à faire deux trucs. Et si je suis en découverte des besoins, j'ai vraiment un niveau de concentration avec le mec, mais c'est fatigant, où j'arrive pas à écrire en même temps, où je prends des notes qui sont pas quali. Mais par contre, je sais que dès que je sors du rendez-vous, si c'est un rendez-vous physique, il faut que je note tout de suite. Sinon, je vais oublier, tu vois. À chaud, en fait, je me feedback. Mais si je suis en rendez-vous visio, je vais essayer de tout faire dans le CRM pour, ça, c'est plus moi, parce que vu que le soir, j'aime pas, moi, je suis du matin, tu vois, mais j'aime pas traîner au bureau. Bah, s'il faut que je me tape une heure de prise de trucs, ça m'emmerde et j'aime bien remplir la bécane, quoi, tu vois.
Yes. OK. Eh ben, écoute, très cool. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner, sur, justement, pour aider à closer des deals vite en one shot?
Bien sûr, j'ai un conseil. Laetitia, vous voulez closer des deals? Allez sur les pages profil Maxime Paris ou Laetitia Fall, prenez rendez-vous, préparez vos cartes bleues et vos IBAN et on va faire des prestats, les gars. On va faire de vous des biz dev, des vrais, des durs, quoi. Si vous avez du budget.
Bon, du coup, je précise, allez voir Maxime Paris parce que pour l'instant, j'ai pas une offre comme ça. Mais en tout cas, nickel. Ouais, en fait, en tout cas, je recommande chaudement. Je sais que, voilà, je pense en tout cas en France, tu peux transformer quelqu'un qui sait pas vendre en un super vendeur. Donc, en tout cas, merci beaucoup parce que c'était concret et je pense qu'on a vraiment besoin de conseils vraiment, vraiment concrets, vraiment actionnables et surtout réalistes avec le terrain. Et c'est ça ta force. Donc, franchement, merci beaucoup.
Ouais, merci Laetitia pour l'invitation. Je suis très content d'être paru dans Vendu.
Je t'en prie. Je t'en prie. Et puis, on aura l'occasion d'avoir d'autres discussions, j'espère.
En tout cas,
c'est you. Et puis bah, éclate-toi bien en Argentine. Et reviens vite en France.
Je rentre vite sur Paris là, pour faire des events. On va parler closing, one shot. Je reviens avec le soleil, en fait.
Ok, bah trop cool.
Donc avec plaisir. À bientôt.
Bye. Et ben c'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Merci encore Maxime pour cet échange, tes super conseils et ton humour. Vous pouvez le suivre sur LinkedIn. Je vous mets toutes les informations dans la description du podcast. Si ça t'a plu, et ben c'est maintenant qu'il faut m'aider et je vais te dire comment. Abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast. Si tu es sur Apple Podcasts ou Spotify, tu peux me laisser un avis 5 étoiles de préférence pour m'aider à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à plus de monde. Si tu veux aller plus loin, accéder à des ressources ou ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi à ma newsletter Vendu. Je te mets le lien toujours en description et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.